je suis très content d'être arrivé à l'heure.
Ah, il faut savoir que Victor vient de faire les buts de Chaumont jusqu'à ici les Moulineaux en Vélib.
Donc Victor est fou.
Ça voilà. S'appelle une sacrée déter. Victor, t'es créateur du compte Instagram de Street Food, le guide ultime, suivi par plus de 800 000 personnes. C'est pas seulement un compte où tu références les meilleurs restos de Paris, c'est aussi l'endroit où tu partages plein de bons plans que t'as réussi à négocier avec les restaurateurs. T'as aussi sorti un livre qui s'appelle Le guide ultime de Paris, où tu références dedans tous les restos, les meilleurs restos de street food.
Ouais, bah, c'est super bien résumé, c'est ça, on est une équipe maintenant et aujourd'hui notre objectif c'est vraiment de faire kiffer les Parisiens de tous les âges en faisant découvrir vraiment la bonne street food, tu vois, que tu peux trouver un peu partout au milieu de la rue, donc voilà, c'est
les petits repas pas chers que tu peux te faire sur le pouce, quoi.
Ouais, exactement.
Alors comment ça s'en est venu en fait, cette idée de vouloir lancer le guide ultime, de lancer un livre aussi?
Bah en fait c'était après le premier confinement, moi j'ai fait justement un long voyage à vélo et je suis rentré, j'étais bloqué à Paris.
Donc autant dire que les buts de Chaumont ici les Moulineaux c'est rien.
Tranquille, en vrai ça va, tu vois, j'ai la cardio. Et ouais, je me suis dit bah ça serait super de référencer un peu tous ces petits artisans, ouais, qu'on connaît pas trop, tu vois, qui font de la super bouffe mais qui sont nuls en communication, qui ont forcément pas de budget à mettre là-dedans. Et ça a commencé comme ça, un petit peu par hasard, ça a grossi, ça a, comme tu l'as dit, beaucoup grossi aujourd'hui. Mais voilà, c'est toujours la même passion, la même envie de faire découvrir les petits artisans.
Tu t'attendais à ce que ça prenne autant 800 000 personnes qui te suivent là, rien que sur Instagram?
Non, mais moi à chaque fois je me souviens, je disais à mon associé, ouais 100 000 c'est le max, après 150 000 ouais c'est pas mal mais on est un peu plus loin. Et ouais, à chaque fois ça me surprend et je suis trop heureux et j'ai beaucoup de chance, mais c'était pas du tout le plan, quoi.
Donc il y a ce compte Instagram, il y a aussi donc le livre, t'as aussi créé un abonnement qui permet d'avoir des réductions dans plein d'enseignes, dans des restaurants, il y a aussi des enseignes,
les îlots flottants, ou des,
ouais,
choses comme ça.
Ouais, ouais, il y a plein de trucs, plein d'expériences.
On va en reparler de tout ça aussi. Et puis t'as lancé récemment, là, ça fait je crois même pas quelques jours, les cartes à échanger contre des repas gratos.
Yes.
Attention, ça c'est un gros programme. On va reparler de tout ça avec toi Victor, juste avant, à Paris et partout en Ile-de-France, sur la radio parisienne, on file tout droit vers le week-end. Plein de bons sons qui arrivent aussi. Marina Kaye, Claudio Capéo et puis Slimane, on écoute des milliers de Je t'aime sur Voltage, la radio parisienne.
L'invité du 10-15.
Vendredi aujourd'hui, on est le 9 juin, je suis très content de vous accompagner, c'était Théo, je suis avec Maud aussi sur Voltage. Et on n'est pas tout seul à midi, Victor est avec nous. Salut Victor.
Salut.
Créateur du compte Instagram de Street Food, le guide ultime, suivi par plus de 800 000 personnes où tu références les meilleurs restaurants parisiens de street food. Comment ça, t'en es venu en fait à avoir cette idée? Donc t'as fait un petit peu c'est avec le confinement en fait, t'as eu envie de mettre les restaurateurs en avant.
Ouais, et en fait c'était à l'époque où, pour être un peu technique, Instagram lançait Reels, donc le format de vidéo courte. Et en fait à l'époque il y a personne qui faisait rien et personne qui parlait de nourriture non plus comme ça. Et bah, je sais pas, je me suis dit ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être intéressant et ça a tout de suite pris de ouf. Et après du coup bah j'ai continué et là 3 ans plus tard bah je continue.
En fait Victor c'est ce gars, tu sais quand t'es sur Instagram, tu vois des restaurants passer dans tes Reels et t'enregistres le Reels pour plus tard au cas où t'as envie de te refaire le resto.
Ouais.
Moi j'ai une question, c'est comment tu les choisis? Est-ce que c'est eux qui t'envoient maintenant que t'es connu, est-ce que c'est eux qui t'envoient genre est-ce que tu peux venir chez moi, ou c'est toi qui vas avec ton petit vélo justement parce que comme t'es adepte de vélo dans Paris et débusquer des bonnes adresses?
Ouais bah en fait on reçoit énormément de demandes, de propositions et on a tendance plutôt à dire non. Parce que justement notre exercice à nous c'est de trouver, de faire l'effort d'aller chercher. Donc il n'y a pas que moi maintenant, on est vraiment une team et effectivement on va partir à la recherche, on se promène énormément, on regarde beaucoup ce qui se fait sur Instagram et on est très proactif en fait, tu vois, pour trouver la petite adresse qui vient de sortir un peu pépite. Surtout parce qu'en fait si les gens ont parlé de nous, bah c'est des gens qui sont déjà un petit peu dans le milieu. Moi ce que j'adore c'est quand on va découvrir une petite adresse, tu vois là dans le 15e, et ça qui est cool aussi, tu vois, un peu partout il y a des endroits super et genre même le 15e c'est vraiment super. Si tu cherches un peu, tu trouves des trucs de fou. Et en fait, c'est trop bien, tu sais, tu y vas, ils savent pas qui t'es. Genre t'es incognito, tu fais ta petite vidéo et tout, et c'est hyper spontané quoi, donc c'est vraiment cool.
Ça t'arrive encore parfois, genre juste tu te balades dans Paris et tu tombes vraiment sur une petite adresse par hasard et t'en fais une vidéo comme ça?
Ouais, parce qu'en fait Paris c'est tellement grand que t'as tout le temps des nouvelles adresses qui ouvrent. Je crois qu'il y a genre 8000 restaurants à Paris, et en fait t'as un renouvellement continu. Donc c'est ça qui est génial dans cette ville, c'est que tu fais pas le tour. Tu vois, je me dis pas c'est bon, j'ai tout couvert et...
Bah justement j'avais cette question de est-ce que tu crois vraiment qu'on peut trouver encore des pépites, donc oui.
Ouais, franchement, je continue à en trouver, je continue à être émerveillé, Paris c'est infini quoi, donc c'est ça qui est trop bien.
Et ce qui est bien aussi avec le guide ultime, c'est qu'en fait tu proposes plein de petites adresses de street food dans Paris, mais aussi des systèmes où tu permets aux gens d'avoir des burgers, des kebabs gratuits. Comment ça se passe ça?
C'est un truc qu'on a mis en place avec des restaurants partenaires, parce qu'on se dit que c'est cool aussi d'essayer de régaler notamment les jeunes, tu vois, qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour plein de gens.
Ouais.
Et en fait on trouve un système où nous on fait la communication pour les restaurants. En échange ça leur donne de la visibilité et du coup ils nous offrent 300 kebabs, 500 burgers. Et c'est cool parce que ça régale tout le monde, ça crée un peu de dynamisme dans le quartier et tout le monde est ravi quoi.
Et quand tu lances l'opération, il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent devant les restos?
Alors au début on annonçait, on disait venez à midi devant ce resto et c'était infernal. Une fois on l'a fait avec un kebab qui s'appelle Lux Kebab dans le 13e et il y a eu tellement de queue que la police a dû venir.
Oh.
En fait, ça a bloqué toute la rue.
Incroyable.
C'est quoi le truc le plus énorme que vous avez réussi à dealer comme ça?
Le plus énorme, on a fait plus de 2000 parts du gâteau Opéra à l'Opéra Garnier.
Ah ouais. Wow.
On a distribué devant l'Opéra.
Incroyable.
Énorme. Mais alors, du coup, vous êtes combien à bosser là pour le guide ultime?
Là, il y a moi, il y a mon associé, on a une petite équipe, on a Ali au contenu, on a aussi Pauline, donc on est une dizaine, petite équipe, des très déter pour faire des choses.
Et puis par la suite, vous avez aussi sorti le livre, c'était il y a un an, si je dis pas de bêtises.
Hyper bien renseigné, c'est incroyable.
Le livre qui s'appelle Le guide ultime de Paris, où pareil, tu recenses plein des petites adresses de street food à Paris, qui est d'ailleurs le livre le plus rentable de l'histoire des livres, puisqu'il coûte 15,95€. Mais à l'intérieur, il y a près de 50€ de nourriture à gagner. Ça,
ouais.
C'est pas mal.
Ouais, c'était l'idée, c'est de faire plein de bons plans et en fait que tu rentabilises en l'utilisant au quotidien, quoi.
On va en reparler de ce livre, Victor. Merci beaucoup d'être là avec nous sur Voltage. Le pass aussi, l'abonnement que t'as mis en place pour avoir plein de réductions dans Paris. Et puis Marina Kaye sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Jusqu'à 14h, on est avec Victor du Guide Ultime, créateur du Guide Ultime sur Instagram, qui référence tous les meilleurs restaurants street food de Paris. Enfin, tous. Tu nous disais tout à l'heure, il y en a plus de 8000. Tu les as pas encore tous fait.
Je pense que j'ai mangé dans peut-être 700-800 restos dans Paris.
Ah ouais, tu penses que là ça fait 700-800 depuis la création du compte?
Ouais.
Et est-ce que tu te rends compte quand même qu'il a mangé dans 700-800 restos et que le gars il doit faire pas plus que mon doigt en épaisseur? Comment tu fais quoi?
En même temps, il fait du vélo, voilà.
Ah oui, du vélo.
Il est venu depuis les buts de Chaumont jusqu'à ici les Moulineaux en vélo.
Ah c'est ça le secret, ok.
Et il fait quand même 27 degrés dehors, tu vois.
30 même.
Alors Victor, t'as créé donc le compte Instagram, le guide ultime, t'as aussi sorti un livre.
Ouais.
Qui s'appelle Le guide ultime de Paris avec Nora Barraud.
Ouais, c'est ça. Nora, c'est mon associé. En fait, on s'est dit que c'était trop cool Instagram, mais c'était bien d'avoir un petit truc papier pour emmener avec toi où tu pouvais faire des ratures et tout. Parce que quand même, l'objet physique, c'est cool. Et du coup, on en a sorti un en indé et après un deuxième avec Hachette. Et ça s'est super bien passé, ça s'est super bien vendu. Et c'est dispo à la Fnac.
Et qui est d'ailleurs le guide le plus rentable de l'histoire, puisqu'il coûte 15,95€. Mais à l'intérieur, il y a près de 50€ de bons plans de nourriture à gagner. Ça c'est pas mal aussi.
C'est cool, mais pour être totalement sincère, en fait ça c'était la première année après le lancement. Donc aujourd'hui...
Bon maintenant il coûte plus que 15€.
Mais il est toujours très très bien, donc n'hésitez pas. Vraiment c'est un très bon investissement.
Victor, il est exactement 13h28. Si tu devais retenir que 3 restaurants dans Paris.
Ouais. Alors question très très dure, mais heureusement tu m'as posé un petit peu avant off, donc j'ai pu réfléchir. En premier, je dirais manger, cassez-vous.
Ah c'est
drôle,
le tout premier restaurant que t'as fait sur Instagram.
Exactement,
crois,
sur TikTok, ouais. Mangez cassez-vous, donc c'est un burger fait maison, tout à maison, les frites à 1€ maison,
ah
le
ouais.
pain à la main, le burger à 3,20€.
Oh.
Il est exceptionnel.
Mais comment il fait pour arriver à être en profit?
Il gagne très peu d'argent et il fait énormément de volume.
D'accord.
Mais c'est un produit d'exception à un prix vraiment pas cher. Je déconseille de venir vers midi parce que c'est bien d'être que. Mais tu viens vers 14h, c'est super. Il y en a ouvert 3 là dans Paris. Et c'est vraiment une découverte de ouf. Et nous on a une histoire, c'est une des premières vidéos qui a vraiment explosé, tu vois. Et du coup c'est là on s'est dit putain mais c'est puissant les réseaux. En fait le gars il faisait ça dans sa rue et tout, il y avait personne. Il y avait vraiment. Enfin c'était vite, tu vois. Et après la vidéo, il a eu 2 heures de queue tous les jours pendant un mois et demi quoi.
C'est pas ce gars aussi qui a lancé une friperie très très peu chère?
Exactement. Ouais, c'est Anis, il a lancé ZX. Et là il en a lancé une nouvelle qui s'appelle les sales voleurs. Et en gros c'est une banque, en fait il a refait une banque qui est braquée, donc il y a des distributeurs de billets et il y a un trou dans le mur. Et tu rentres comme si t'allais dérober des trucs.
Ah j'ai vu la vidéo, ça m'a donné trop envie parce que pareil c'est pas très cher non plus.
Non et encore une fois un concept trop trop marrant, c'est le prix est dégressif. Donc en fait le moins cher je crois c'est genre 80 centimes, le plus cher c'est 3 balles et en fonction du jour auquel tu viens, sachant qu'en fait le premier jour c'est l'arrivage, donc t'as les meilleurs produits. Et si tu arrives à la fin, avant le renouvellement, bah t'as les produits les moins chers.
Ah cool.
Excellent ça aussi. Donc mangez et cassez-vous, deuxième resto.
Deuxième j'ai mis l'Aizé. L'Aizé parce que j'étais ce matin. Et l'Aizé donc c'est le premier bubble tea de Paris. Je pense que vous devez connaître les bubble tea.
Oui, ça me parle, mais ça avait l'air très bizarre.
Justement, l'Aizé ce qui est génial, c'est que c'est dans la tradition taïwanaise qu'ils vont récupérer du thé de la région de Hainan. Donc c'est une région qui est connue pour faire un thé exceptionnel. Et en fait, c'est toujours ce que je conseille si tu veux vraiment découvrir le vrai bon bubble tea taïwanais, c'est l'Aizé où il faut aller. Donc c'est L-A-I-Z-E.
Mais il y a quand même des espèces de bouboules dans le thé. Hein.
T'es pas obligé de les prendre, mais ouais, ça c'est traditionnel. C'est les perles de tapioca. C'est vraiment bizarre quand tu connais pas. Parce que genre en fait, t'aspires.
Mais c'est ça.
Ouais, et t'as un truc à manger.
C'est un peu bizarre quand tu bois du thé, tu t'attends pas à avoir de la substance. Mais toi, tu conseilles celle-là.
Hein. Ouais, en fait, si tu veux goûter, si tu veux découvrir le bubble tea, il faut vraiment aller là-bas. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement hype qu'il y a genre 1000 adresses ouvertes. Et franchement, il y en a, c'est de l'eau avec du sirop, quoi. Donc forcément, c'est décevant.
De toute façon, les bubble tea, c'est tout ou rien. Soit t'aimes, soit tu détestes.
Ouais, mais il faut tester. Tu peux pas venir à Paris
oui,
et pas
vrai.
Tester un bubble tea.
Et enfin, dernier resto, ton dernier resto ultime à Paris.
Alors là, vu qu'il fait 47 degrés à peu près, j'ai choisi Bachir. Donc Bachir,
c'est bon, ça.
Tu connais?
Ah ouais.
C'est quoi?
C'est des glaces libanaises qui cartonnent au Liban Et en fait, les petits-enfants du propriétaire au Liban s'est dit, on a envie de refaire ça à Paris, parce que c'est chiant de devoir aller au Liban pour manger une bonne glace. Donc c'est des glaces qui sont assez particulières, parce qu'il y a la hachta, qui est de la sève de pistache.
D'accord.
Et en fait, ça donne une texture un petit peu crémeuse, qui est hyper intéressante. Ça a la fleur d'oranger aussi, enfin c'est exceptionnel, et c'est hyper gourmand. Il entoure de pistache, avec un peu de crème pelletée par-dessus.
Vraiment très très bon.
Ah ouais.
C'est vraiment très sucré.
Mais ça a vraiment une impression de crème glacée ou pas du tout? C'est complètement différent.
Ouais, c'est super bon, c'est vraiment, c'est un délice. C'est à Châtelet, je crois, si tu dis pas de bêtises.
Entre autres, à Châtelet et à Montmartre. Et en fait, le secret, c'est qu'avec la sève de pistachier, ça fond pas trop.
D'accord.
Et du coup, tu gardes une bonne texture. C'est pas comme la glace qui va fondre quand
qui
il
fond en deux secondes, ouais. Et que t'es obligé de dire à ton enfant, lèche bien parce que tu vas en avoir sur la robe.
C'est sur les doigts après. Ouais, c'est collant, c'est en enfer quoi.
Okay, moi, je rajoute un dernier resto.
Vas-y.
Je rajoute un dernier resto, c'est Kodawari Ramen.
Ah oui.
Alors, il y en a deux. Il y en a un qui fait du poisson et un autre qui fait plus des trucs de viande. Ce sont des ramen, mais sauf qu'en fait, à l'intérieur du restaurant, ils ont reproduit des ruelles de Tokyo. Genre, ouais. T'as un marché aux poissons et une autre, c'est vraiment une petite ruelle de Tokyo très typique. C'est ultra, ultra bon.
Et le gars qui a créé ça, qui s'appelle Jean-Baptiste de mémoire, tu vois, par exemple, sur la rue, il est parti au Japon mouler une plaque d'égout pour avoir exactement la même apparition.
Oh, c'est incroyable.
Le niveau de détail est monstrueux.
Ouais.
Et le marché aux poissons, pour y être allé au Japon, c'est d'un ressemblance qui est folle.
C'est incroyable, en plus ils t'accueillent en criant des trucs vraiment comme dans les restaurants là-bas.
Ouais.
Je crois qu'ils ont même fait pousser eux-mêmes le blé pour faire les nouilles.
Ça c'est l'histoire qui est très très drôle. En fait le gars il trouvait pas des bonnes nouilles fraîches pour ses ramen. Donc il s'est dit je vais acheter une plantation de blé, comme ça je vais vraiment voir la qualité de la production pour pouvoir les faire à la main. Et d'ailleurs c'est marrant, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube d'un excellent chef de ramen japonais qui est venu à Paris. Donc un mec ultra exigeant, il a dit le meilleur c'est Kodawari.
Ouais, non mais vraiment,
donc,
très très bon.
Écoute, on retient l'adresse.
Et on vous mettra toutes les adresses évidemment sur voltage.fr, sur le compte Instagram de Voltage. On va aussi parler du système d'abonnement que t'as mis en place. Juste avant, voici Kinvé avec le morceau Tu Mentais sur Voltage à Paris et partout en Ile-de-France. On file tout droit vers le week-end. Merci à vous d'avoir choisi la radio parisienne. The Weeknd sur Voltage, concert au Stade de France les 29 et 30 juillet prochains.
L'invité du 10-15.
Alors le concert est archi complet, mais ce qui est très très cool, c'est que Victor du Guide Ultime est notre invité. Il a réussi à boutiller 150 places gratos. Et ça c'est vraiment hyper sympa de sa part. Victor, je te remercie beaucoup d'être l'invité de Voltage. On est hyper content de te recevoir. C'est toi qui as créé le compte Instagram, le Guide Ultime, sur lequel tu partages tous les meilleurs restaurants de street food à Paris. Plein de bons plans aussi pour avoir des plats un peu moins chers à 50%. T'as lancé aussi un abonnement à l'année qui te permet en fait de pouvoir bénéficier de réductions tout au long de l'année dans plein de restos.
Exactement, ça s'appelle ledealultime.fr et en gros c'est un abonnement qui donne accès à moitié prix à une centaine de restos, d'activités, d'expériences, de bars, de bubble tea. Et c'est trop chouette. De base on a lancé ça pour faire quelque chose de solidaire. C'était 2€ l'abonnement. 4€ formule soutien et 2€ formule solidaire par mois. Et aujourd'hui on a plein d'offres différentes et l'idée effectivement c'est de permettre à plein de gens de se régaler et surtout de permettre aux restaurateurs d'avoir de la valeur. Tu vois, eux ils nous font une réduction, mais nous en échange on leur fait une communication géniale pour qu'ils aient quand même beaucoup de nouveaux clients.
Mais c'est quoi qu'est-ce que t'appelles solidaire? C'est par rapport aux restaurateurs ou c'est pour une association?
Non, c'est pour les gens, c'est pour les jeunes en fait.
Oui,
pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, pour 2€ par mois, t'as accès à une centaine de restos à moitié prix, donc c'est forcément ultra rentable. Ça permet de bien manger, de découvrir des trucs cool et de faire vivre aussi des artisans qui le méritent quoi.
Il n'y a pas que des restos aussi, hein. il y a des concepts. Il y a un truc à Paris juste à côté de la Tour Eiffel, c'est des centres de flottaison. J'ai pu tester grâce au deal ultime le centre de flottaison. J'ai eu pour 50% la séance. Tu sais, c'est les bulles dans lesquelles tu flottes et t'es complètement privé de tes sens et c'est hyper relaxant.
Et ça ressemble à une espèce de cabine UV, mais en fait c'est
exactement.
De l'eau dedans, hein, c'est ça.
Exactement, okay. C'est un vrai délire. Hein.
Et t'as pas de lumière et t'es immergé dedans, c'est
ça? Ouais, t'es immergé en fait, t'as pas de lumière, t'as pas de bruit, ou alors je crois que tu peux avoir une petite
musique. T'es privé de tous tes sens, voilà. Entre guillemets. Mais ouais, ça doit être un peu flippant, non?
Bah c'est un peu, au début c'est un peu déstabilisant et puis après tu te laisses aller et c'est vraiment, mais alors vraiment relaxant. En fait je suis resté je crois une demi-heure dedans, c'est passé en 5 minutes.
Ouais.
Parce qu'en fait tu lâches prise quoi.
Ouais, tu perds conscience de tout quoi, ok.
T'as aussi lancé, alors pour fêter les 800 000 abonnés sur Instagram, t'as lancé des cartes à jouer.
Ouais, ça c'est mon kiff un peu de jeunesse, un truc que je rêvais de faire. Et en fait c'est des cartes, donc c'est 25€, t'as 5 cartes. Et en fait chaque carte donne accès à un resto gratuitement. Donc t'as plein de trucs, t'as des cartes rares qui donnent accès à des restaurants de luxe, t'as des cartes un peu moins chères qui donnent accès à des super trucs de street food. Et du coup en fait c'est des cartes, soit tu les consommes, donc tu les échanges au restaurateur, soit tu les échanges avec tes potes. Et du coup l'idée c'est vraiment de créer l'interaction comme ça avec les gens quoi.
Et où est-ce qu'on retrouve tout ça? C'est sur ton site internet?
Ouais, tu mets le guide ultime sur Google, tu vas trouver sans problème.
Merci beaucoup Victor d'avoir été l'invité de Voltage aujourd'hui. On est hyper content de t'avoir reçu. Évidemment, on va mettre le podcast sur voltage.fr. On va faire aussi un petit réel. Et puis toutes les infos qu'on a données, vous les retrouverez aussi en ligne. Merci beaucoup Victor.
Avec grand plaisir.
À très très vite. Voici Jane sur Voltage.
Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur Voltage. Our love is alive.
Vous êtes au cœur de la nuit Voltage. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 5.
Bioéthanol, GPL ou hydrogène, ces solutions sont-elles efficaces? Vous l'aurez compris, tout au long de nos épisodes, la solution la plus intéressante à l'avenir est de sortir complètement du moteur thermique. Oui, mais voilà, la fin de vente de véhicules à moteur thermique est prévue en Europe en 2035, avec l'espoir d'une sortie totale après 2050. Alors, comment engager cette transition et surtout, quelles solutions proposer à court et moyen terme? Parmi ces solutions, l'hydrogène, possible sauveur du moteur thermique. 6 cylindres, turbocompresseur à l'arrivée d'air, filtre à particules. D'apparence ordinaire, la puissance mécanique de ce moteur se fera à partir d'hydrogène propre. C'est la réaction explosive entre le dioxygène et le dihydrogène qui va permettre de créer cette énergie. Une technologie qui n'est pas encore maîtrisée et qui pourrait ne pas correspondre à toutes les attentes, selon le chercheur sur la transition énergétique des transports, Aurélien Bigot.
En effet, il y a des risques qui vont être un des défis du développement de l'hydrogène. La particule d'hydrogène est très fine, du coup il va y avoir des risques de fuite dans les réservoirs, etc. Donc voilà, il y a des défis techniques qui vont nécessiter plutôt de le garder pour les modes de transport qui sont les plus difficiles à décarboner via d'autres types de solutions.
Le 20 janvier 2023, par exemple, 5 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un prototype de véhicule à hydrogène. Un accident survenu dans le laboratoire de l'Université de technologie Belfort-Montbéliard, entraînant une importante intervention des pompiers. Mais au-delà du côté sécuritaire, l'hydrogène présenterait aussi quelques effets paradoxaux.
Il faut produire l'hydrogène. Aujourd'hui, il est principalement produit à partir d'énergie fossile, donc d'un point de vue émission de CO2. Aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène n'est pas vraiment vertueuse, n'est pas vraiment intéressante d'un point de vue climatique. Et puis, du coup, va être plus coûteux aussi, parce que pour produire à l'avenir de l'hydrogène à partir d'un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau pour obtenir de l'hydrogène, eh bien ça va demander beaucoup d'électricité, plus que si jamais on utilise directement l'électricité dans un véhicule électrique avec une batterie. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une transformation énergétique à faire, on va perdre une partie de l'énergie. D'où, au final, le fait qu'il y a besoin de plus d'électricité sur l'ensemble de la chaîne pour faire rouler un véhicule à hydrogène. Soit on veut utiliser l'hydrogène dans un moteur à combustion interne, comme aujourd'hui on peut utiliser du pétrole dans nos moteurs de voitures, par exemple. Et là, ces moteurs-là sont assez inefficaces, d'où le fait qu'il faut, sur l'ensemble de la chaîne, plus d'électricité. C'est un peu l'un des principaux inconvénients de la filière hydrogène comparé à l'électrique.
Un moteur qui doit être adapté et qui consomme plus d'énergie que ce qui est présenté. Bon, voici le constat pour l'hydrogène. Alors, quelle autre solution ? Peut-être modifier le réservoir pour adapter son ancien moteur thermique. La crise actuelle des carburants a remis au goût du jour le bioéthanol, par exemple. Au 20 janvier 2023, l'écart de prix est de 76 centimes entre un litre de superéthanol et un litre de samplon 95-10. À la pompe, le 85 se trouve autour d'1,20€ le litre, ce qui fait de lui le carburant le moins cher. Quelle production permet d'atteindre ce prix ? Élément de réponse avec Nicolas Kurtsoglou du Syndicat National des Producteurs d'Alcool Agricole.
Alors aujourd'hui, donc c'est blé, betterave, maïs, c'est 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits qui sont utilisés pour faire du bioéthanol. Donc c'est une surface extrêmement faible pour produire beaucoup d'énergie, puisque en fait on produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol avec 0,6% de la surface agricole utile. Et on peut faire rouler plusieurs centaines de milliers de voitures. Donc là, on a de l'alcool et de l'eau, et ensuite on fait une distillation, et là, on obtient de l'éthanol pur à 99,99%. Cet éthanol est envoyé dans des dépôts pétroliers, et il est ajouté avec un peu d'essence pour faire soit du superéthanol E85, qui contient entre 60% et 85% d'éthanol, le reste c'est de l'essence, soit à 10% d'éthanol et 90% de samplon pour faire du samplon 95 E10. Le super éthanol E85 par rapport à l'essence samplon 95 E10 divise par 2 les émissions de CO2. Le bioéthanol pur, on fait moins 77% de gaz à effet de serre. C'est bon pour la qualité de l'air, parce qu'on divise par 10 les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Et puis surtout pour l'indépendance énergétique. On peut produire notre carburant et notre énergie chez nous plutôt que d'importer du gazole russe. La France est le numéro 1 du nucléaire et c'est un peu moins connu, et le numéro 1 du bioéthanol aussi en Europe.
L'année 2022 a été une année particulière, avec une crise du carburant exceptionnelle. Un regain d'activité a donc été constaté du côté du bioéthanol, lui qui semblait un peu mis de côté à la fin des années 2010. La consommation du bioéthanol s'est envolée de 83% l'an dernier, soit plus de 854 millions de litres sur 12 mois.
Il y a 12 ans, il y avait à peine 1% des stations qui proposaient le 85. Voilà, aujourd'hui, on est à plus de 1 sur 3, donc plus de 33%. Les volumes de superéthanol E85 ont été multipliés par plus de 10. Effectivement, l'écart de prix entre le E85 et l'essence sans plomb 95-10 est aussi tout à fait significatif et fait que les gens ont envie de l'utiliser. Et tout simplement, il faut un peu de temps pour que la notoriété d'un produit se fasse. Plus le produit est présent sur les totems des stations-service, plus on le voit, plus on a envie de l'utiliser, puisqu'il y a un écart de prix substantiel.
Alors, comment bénéficier de ce biocarburant ? Eh bien, soit en achetant un véhicule qui avance au bioéthanol, soit en faisant la conversion vers un boîtier flex fuel pour votre voiture actuelle et qui fait la conversion au niveau de votre réservoir.
Sur les voitures essence d'occasion, c'est toutes les voitures qui sont immatriculées depuis 2001 et après. Et ensuite, il faut qu'elles soient compatibles E10, évidemment. Et donc, effectivement, vous allez en fait sur info85.fr et vous avez la liste des 4 fabricants de boîtiers E85 et sur chacun, il y a la liste des garagistes qui sont les plus proches de votre domicile et donc vous pouvez ensuite demander un devis à chacun.
Mais est-ce un carburant d'avenir ? Dans un tableau comparatif permettant de choisir l'énergie de votre futur automobile propre, l'Automobile Magazine a classé chaque énergie selon ses avantages et ses inconvénients. Le bioéthanol est présenté comme la solution optimale pour être plus performant et plus propre afin de rouler à la fois en ville, sur route et sur autoroute.
On a fait des petits calculs en passant seulement de 0,6% à 1% de la surface agricole utile, on passe de 12 millions d'hectolitres à 18 millions d'hectolitres de bioéthanol. Et avec des voitures qui sont de plus en plus hybrides et hybrides rechargeables, donc qui consomment de moins en moins de litres de carburant liquide par 100 km, on peut faire tourner plus de 5 millions de voitures. Et donc c'est en gros 17% du parc automobile qui pourrait être abreuvé entre guillemets de superéthanol avec seulement 1% de la surface agricole utile. Il y a des solutions qui sont disponibles là et il y a un certain nombre d'industriels qui peuvent à la fois au niveau voiture, boîtier et distributeur de carburant proposer des solutions. Donc, sur les immatriculations de voitures neuves, on voit des fortes augmentations pour des voitures hybrides. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des hybrides essence pure. On peut espérer que ce soit des hybrides essence avec un boîtier éthanol ou des hybrides Flex 85 d'origine. Ça permet déjà de décarboner extrêmement fortement. Nous-mêmes, on a commandé une étude à l'IFPEN pour analyser en analyse de cycle de vie les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'une hybride rechargeable E85 est au même niveau et parfois un peu meilleure que la voiture électrique avec une batterie. Parce qu'aujourd'hui, la batterie a un impact CO2, une empreinte CO2.
Pourtant, tous les feux ne seraient pas au vert. Déjà, il faut signaler que l'E85, au même titre que les carburants classiques, va également subir les restrictions à venir sur les émissions de CO2. S'il est donc une solution, il n'y a rien d'optimal, selon le chercheur Aurélien Bigot.
La principale chose qui bloque, c'est le niveau de ressources disponibles de manière durable pour alimenter ces biocarburants. Si on voulait remplacer tout le pétrole par du biocarburant, soit il faudrait avoir une énorme partie des cultures qu'on utilise actuellement pour l'alimentation qui serait fléchée, disons, vers ces biocarburants, soit on n'a pas assez de ressources si on veut que ce soit produit à partir, disons, de déchets ou à partir de ressources qu'on ne peut pas valoriser par ailleurs. Donc c'est vraiment le principal problème. Et actuellement, en termes de bilan carbone aussi, le fait d'avoir des biocarburants qui sont beaucoup en concurrence avec les usages alimentaires, donc par exemple pour le bioéthanol, ça va être produit beaucoup à partir de maïs, de blé, de betterave, etc. Et bien en fait, ça va avoir des émissions quand même loin d'être négligeables. Et c'est pour ça qu'on doit réserver ce potentiel de biocarburant qui est assez limité, si on veut le produire à partir de déchets, plutôt vers des véhicules, vers des modes de transport pour lesquels il n'y a pas d'alternative suffisamment prête, suffisamment efficace sur les prochaines années ou à plus long terme, comme par exemple les poids lourds. L'électrique devrait être davantage complété par de l'hydrogène, potentiellement par des biocarburants ou par du biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse. Donc là, ça demande de changer les moteurs. C'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, qu'on peut obtenir à partir de résidus de plantes, par exemple.
Et oui, car d'autres carburants alternatifs sont expérimentés. Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, qui est issu du pétrole, est constitué principalement de butane et de propane. Le gaz naturel véhicule, ou GNV, est quant à lui essentiellement composé de méthane. Ce dernier peut à la fois provenir de gaz naturel ou de biométhane, un gaz vert renouvelable. Mais ce n'est pas la solution idéale. Déjà, parce que les pompes se font plus rares, mais aussi parce que leur composition ne présente pas une alternative très décarbonée. Autre solution évoquée, l'huile de friture. Alors attention, seuls les moteurs diesel peuvent la supporter. Le législateur conseille un mélange de 30% d'huile usagée pour 70% de diesel et surtout pour des moteurs anciens. Difficile donc de voir ce carburant comme un carburant d'avenir, même si le Sénat a donné son feu vert à la législation de l'huile de friture usagée comme carburant pour des véhicules appartenant à une entreprise ou une collectivité. McDonald's, par exemple, utilise sa propre huile pour ses camions de transport. Pour le chercheur Aurélien Bigot, le potentiel reste donc limité.
Le potentiel de production pour ces biocarburants qu'on appelle de seconde génération, donc à partir de déchets, typiquement l'huile de friture, au lieu de l'acheter, c'est très intéressant de la transformer en biocarburant et puis de pouvoir l'utiliser dans des véhicules. Mais on voit bien que l'huile de friture a un potentiel qui reste assez limité. On ne va pas se mettre à tous manger des frites à longueur de journée exprès pour avoir plus d'huile de friture pour alimenter nos voitures, nos camions, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel qui peut être utilisé, mais il sera forcément limité. Et à ce moment-là, autant développer le potentiel qui existe, mais il ne faut pas compter dessus comme une solution de masse à l'avenir pour décarboner les transports.
Voilà donc pour ces quelques solutions alternatives. L'ADEME, Agence de la Transition Énergétique, considère que l'électrification du parc automobile est un levier incontournable. Mais elle n'est pas suffisante pour que la transition soit pleinement efficace sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Il faut donc passer par un mix, et pourquoi pas imaginer, selon les utilisations et les distances parcourues, passer sur une hybride électrique bioéthanol. Une hybride qui réduirait encore plus nos émissions, plus qu'une hybride avec essence, ou juste un véhicule essence ou diesel. Pour découvrir plus d'éléments autour des nouvelles mobilités et des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur Voltage pour écouter votre musique préférée.
I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high low here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you say something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn, as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control. Oh, oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll never know. Oh, oh, to the break of dawn. And you say life cannot get to the ground. Go and hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Go and hang your head down, head down. Don't hang your head.
Bonsoir, chaque nuit nous nous retrouvons pour découvrir les meilleurs reportages, interviews de la rédaction. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera toute cette nuit. Bienvenue sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Ça va être compliqué de gérer notre invité aujourd'hui, j'ai déjà le ventre qui gargouille. Salut Victor.
Salut, ça va bien?
Ouais, la forme et toi, trop bien.
Très bien, je suis venu à Vélib, j'ai foncé, j'ai traversé Paris, ça a pris une heure, mais je suis très content d'être arrivé à l'heure.
Ah, il faut savoir que Victor vient de faire les buts de Chaumont jusqu'à ici les Moulineaux en Vélib.
Donc Victor est fou.
Ça voilà. S'appelle une sacrée déterre. Victor, t'es créateur du compte Instagram de Street Food, le guide ultime, suivi par plus de 800 000 personnes. C'est pas seulement un compte où tu références les meilleurs restos de Paris, c'est aussi l'endroit où tu partages plein de bons plans que t'as réussi à négocier avec les restaurateurs. T'as aussi sorti un livre qui s'appelle Le guide ultime de Paris, où tu références dedans tous les restos, les meilleurs restos de Street Food.
Ouais, bah, c'est super bien résumé, c'est ça, on est une équipe maintenant et aujourd'hui notre objectif c'est vraiment de faire kiffer les Parisiens de tous les âges en faisant découvrir vraiment la bonne street food, tu vois, que tu peux trouver un peu partout au milieu de la rue, donc voilà, c'est
les petits repas pas chers que tu peux te faire sur le pouce, quoi.
Ouais, exactement.
Alors comment ça s'en est venu en fait cette idée de vouloir lancer le guide ultime, de lancer un livre aussi?
Bah en fait c'était après le premier confinement, moi j'ai fait justement un long voyage à vélo et je suis rentré, j'étais bloqué à Paris.
Donc autant dire que les buts de Chaumont ici les Moulineaux c'est rien.
Tranquille, en vrai ça va, tu vois, j'ai la cardio. Et ouais, je me suis dit bah ça serait super de référencer un peu tous ces petits artisans qu'on connaît pas trop, tu vois, qui font de la super bouffe mais qui sont nuls en communication, qui ont forcément pas de budget à mettre là-dedans. Et ça a commencé comme ça, un petit peu par hasard, ça a grossi, ça a, comme tu l'as dit, beaucoup grossi aujourd'hui. Mais voilà, c'est toujours la même passion, la même envie de faire découvrir les petits artisans.
Tu t'attendais à ce que ça prenne autant 800 000 personnes qui te suivent là, rien que sur Instagram?
Non, mais moi à chaque fois je me souviens, je disais à mon associé, ouais 100 000 c'est le max. Après 150 000, ouais c'est pas mal, mais on est un peu plus loin. Et ouais, à chaque fois ça me surprend et je suis trop heureux et j'ai beaucoup de chance, mais c'était pas du tout le plan, quoi.
Donc il y a ce compte Instagram, il y a aussi donc le livre, t'as aussi créé un abonnement qui permet d'avoir des réductions dans plein d'enseignes, dans des restaurants, il y a aussi des enseignes les
des îlots flottants. Ou des choses comme ça.
Ouais, il y a plein de trucs, plein d'expériences.
On va en reparler de tout ça aussi. Et puis t'as lancé récemment, là ça fait je crois même pas quelques jours, les cartes à échanger contre des repas gratos.
Yes.
Attention, ça c'est un gros programme. On va reparler de tout ça avec toi Victor, juste avant, à Paris et partout en Ile-de-France sur la radio parisienne. On file tout droit vers le week-end. Plein de bons sons qui arrivent aussi. Marina Kaye, Claudio Capéo et puis Slimane. On écoute des milliers de Je t'aime sur Voltage, la radio parisienne.
L'invité du 10-15.
Vendredi aujourd'hui, on est le 9 juin. Je suis très content de vous accompagner. C'est Théo, je suis avec Maud aussi sur Voltage. Et on n'est pas tout seul à midi. Victor est avec nous. Salut Victor.
Salut.
Créateur du compte Instagram de Street Food, le guide ultime, suivi par plus de 800 000 personnes, où tu références les meilleurs restaurants parisiens de Street Food. Comment t'en es venu en fait à avoir cette idée? Donc t'as fait un petit peu c'est avec le confinement en fait, t'as eu envie de mettre les restaurateurs en avant.
Ouais, et en fait c'était à l'époque où, pour être un peu technique, Instagram lançait Reels, donc le format de vidéo courte. Et en fait à l'époque il y a personne qui faisait rien et personne qui parlait de nourriture non plus comme ça. Et bah, je sais pas, je me suis dit ça pourrait être vraiment sympa, ça pourrait être intéressant et ça a tout de suite pris de ouf. Et après du coup bah j'ai continué et là 3 ans plus tard bah je continue.
En fait Victor c'est ce gars, tu sais quand t'es sur Instagram, tu vois des restaurants passer dans tes Reels et t'enregistres le Reels pour plus tard au cas où t'as envie de te refaire le resto.
Ouais.
Moi j'ai une question, c'est comment tu les choisis? Est-ce que c'est eux qui t'envoient maintenant que t'es connu, est-ce que c'est eux qui t'envoient genre est-ce que tu peux venir chez moi ou c'est toi qui vas avec ton petit vélo justement parce que comme t'es adepte de vélo dans Paris et débusquer des bonnes adresses?
Ouais bah en fait on reçoit énormément de demandes, de propositions et on a tendance plutôt à dire non. Parce que justement notre exercice à nous c'est de trouver, de faire l'effort d'aller chercher. Donc il n'y a pas que moi, mais on est vraiment une team et effectivement on va partir à la recherche, on se promène énormément, on regarde beaucoup ce qui se fait sur Instagram. Et on est très proactif en fait, tu vois, pour trouver la petite adresse qui vient de sortir un peu pépite. Surtout parce qu'en fait si les gens ont parlé de nous, bah c'est des gens qui sont déjà un petit peu dans le milieu. Moi ce que j'adore c'est quand on va découvrir une petite adresse, tu vois là dans le 15e, et ça qui est cool aussi, tu vois, un peu partout il y a des endroits super et genre même le 15e c'est vraiment super. Si tu cherches un peu, tu trouves des trucs fous. Et en fait, c'est trop bien, tu sais, tu vas, ils savent pas qui t'es. Genre t'es incognito, tu fais ta petite vidéo et tout, et c'est hyper spontané quoi, donc c'est vraiment cool.
Ça t'arrive encore parfois, genre juste tu te balades dans Paris et tu tombes vraiment sur une petite adresse par hasard et t'en fais une vidéo comme ça?
Ouais, parce qu'en fait Paris c'est tellement grand que t'as tout le temps des nouvelles adresses qui ouvrent. Je crois qu'il y a genre 8000 restaurants à Paris, et en fait t'as un renouvellement continu. Donc c'est ça qui est génial dans cette ville, c'est que tu fais pas le tour. Tu vois, je me dis pas c'est bon, j'ai tout couvert et...
Bah justement j'avais cette question de est-ce que tu crois vraiment qu'on peut trouver encore des pépites, donc oui.
Ouais, franchement, je continue à en trouver, je continue à être émerveillé, Paris c'est infini quoi, donc c'est ça qui est trop bien.
Et ce qui est bien aussi avec le guide ultime, c'est qu'en fait tu proposes plein de petites adresses de street food dans Paris, mais aussi des systèmes où tu permets aux gens d'avoir des burgers, des kebabs gratuits, comment ça se passe ça?
C'est un truc qu'on a mis en place avec des restaurants partenaires, parce qu'on se dit que c'est cool aussi d'essayer de régaler notamment les jeunes, tu vois, qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué pour plein de gens.
Ouais.
Et en fait on trouve un système où nous on fait la communication pour les restaurants, en échange ça leur donne de la visibilité et du coup ils nous offrent 300 kebabs, 500 burgers et c'est cool parce que ça régale tout le monde, ça crée un peu de dynamisme dans le quartier et tout le monde est ravi quoi.
Et quand tu lances l'opération, il y a vraiment beaucoup de gens qui attendent devant les restos?
Alors au début on annonçait, on disait venez à midi devant ce resto et c'était infernal. Une fois on l'a fait avec un kebab qui s'appelle Lux Kebab dans le 13e et il y a eu tellement de queues que la police a dû venir. Oh. En fait, ça bloquait toute la rue.
Incroyable.
C'est quoi le truc le plus énorme que vous avez réussi à dealer comme ça?
Le plus énorme, on a fait plus de 2000 parts du gâteau Opéra à l'Opéra Garnier.
Ah ouais. Wow.
On a distribué devant l'Opéra.
Incroyable.
Énorme. Mais alors, du coup, vous êtes combien à bosser là pour le guide ultime?
Là, il y a moi, il y a mon associé, on a une petite équipe, on a Ali au contenu, on a aussi Pauline, donc on est une petite dizaine, petite équipe, des traits d'éther pour faire des choses.
Et puis par la suite, vous avez aussi sorti le livre, c'était il y a un an, si je dis pas de bêtises.
Hyper bien renseigné, c'est incroyable.
Le livre qui s'appelle Le guide ultime de Paris, où pareil, tu recenses plein les petites adresses de street food à Paris, qui est d'ailleurs le livre le plus rentable de l'histoire des livres, puisqu'il coûte 15,95€, mais à l'intérieur, il y a près de 50€ de nourriture à gagner. Ça,
ouais.
C'est pas mal.
Ouais, c'était l'idée, c'est de faire plein de bons plans et en fait que tu rentabilises en l'utilisant au quotidien, quoi.
On va en reparler de ce livre, Victor. Merci beaucoup d'être là avec nous sur Voltage. Le pass aussi, l'abonnement que t'as mis en place pour avoir plein de réductions dans Paris. Et puis Marina Kay sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Jusqu'à 14h, on est avec Victor du Guide Ultime, créateur du Guide Ultime sur Instagram, qui référence tous les meilleurs restaurants street food de Paris. Enfin, tous. Tu nous disais tout à l'heure, il y en a plus de 8000. Tu les as pas encore tous fait.
Je pense que j'ai mangé dans peut-être 700-800 restos dans Paris.
Ah ouais, tu penses que là ça fait 700-800 depuis la création du compte?
Ouais.
Et est-ce que tu te rends compte quand même qu'il a mangé dans 700-800 restos et que le gars il doit faire pas plus que mon doigt en épaisseur? Comment tu fais, quoi?
En même temps, il fait du vélo, voilà.
Ah oui, du vélo.
Il est venu depuis les buts de Chaumont jusqu'à ici les Moulineaux en vélo.
Ah, c'est ça le secret, ok.
Et d'accord, tu fais quand même 27 degrés dehors, tu vois.
30 même.
Alors Victor, t'as créé donc le compte Instagram Le Guide Ultime, t'as aussi sorti un livre.
Ouais.
Qui s'appelle Le Guide Ultime de Paris avec Nora Barraud.
Ouais, c'est ça. Nora, c'est mon associé. En fait, on s'est dit que c'était trop cool Instagram, mais c'était bien d'avoir un petit truc papier pour emmener avec toi où tu pouvais faire des ratures et tout. Parce que quand même, l'objet physique, c'est cool. Et du coup, on a sorti un en indé et après un deuxième avec Hachette. Et ça s'est super bien passé, ça s'est super bien rendu. Et c'est dispo à la Fnac.
Et qui est d'ailleurs le guide le plus rentable de l'histoire, puisqu'il coûte 15,95€. Mais à l'intérieur, il y a près de 50€ de bons plans de nourriture à gagner. Ça, c'est pas mal aussi.
C'est cool, mais pour être totalement sincère, en fait, ça c'était la première année après le lancement. Donc aujourd'hui.
Bon, maintenant il coûte plus que 15€.
Mais il est toujours très très bien, donc n'hésitez pas. Vraiment, c'est un très bon investissement.
Victor, il est exactement 13h28. Si tu devais retenir que 3 restaurants dans Paris.
Ouais. Alors, question très très dure, mais heureusement, tu m'as posé un petit peu avant off, donc j'ai pu réfléchir. En premier, je dirais manger, cassez-vous.
Ah, c'est le tout premier restaurant que t'as fait sur Instagram.
Exactement,
quoi,
sur TikTok. Ouais. Manger, cassez-vous. Donc c'est un burger fait maison, tout à maison, les frites à 1€ maison, pain à la main, le burger à 3,20€.
Oh.
Il est exceptionnel.
Mais comment il fait pour arriver à être en profit?
Il gagne très peu d'argent et d'accord. Il fait énormément de volume.
D'accord.
Mais c'est un produit d'exception à un prix vraiment pas cher. Je déconseille de venir vers midi parce que c'est bien d'être que. Mais tu viens vers 14h, c'est super. Il y en a ouvert 3 là dans Paris. Et c'est vraiment une découverte de ouf. Et non, on a une histoire, c'est une des premières vidéos qui a vraiment explosé, tu vois. Et du coup, c'est là on s'est dit putain, mais c'est puissant les réseaux. En fait, le gars il faisait ça dans sa rue et tout, il y avait personne. Il y avait vraiment. Enfin, c'était vite, tu vois. Et après la vidéo, il a eu 2 heures de queue tous les jours pendant un mois et demi, quoi.
C'est pas ce gars aussi qui a lancé une friperie très très peu chère?
Exactement. Ouais, c'est Anis, il a lancé ZX. Et là, il en a lancé une nouvelle qui s'appelle les Sales Voleurs. Et en gros, c'est une banque. En fait, il a refait une banque qui est braquée. Donc, il y a des distributeurs de billets et il y a un trou dans le mur. Et tu rentres comme si t'allais dérober des trucs.
Ah, j'ai vu la vidéo, ça m'a donné trop envie. Parce que pareil, c'est pas très cher non plus.
Non, et encore une fois, un concept trop trop marrant, c'est le prix est dégressif. Donc en fait, le moins cher, je crois, c'est genre 80 centimes. Le plus cher, c'est 3 balles. Et en fonction du jour auquel tu viens, sachant qu'en fait, le premier jour, c'est l'arrivage. Donc t'as les meilleurs produits. Et si tu arrives à la fin, avant le renouvellement, bah t'as les produits les moins chers.
Ah, cool.
Excellent, ça aussi. Donc mangez, cassez-vous, deuxième resto.
Deuxième, j'ai mis l'Aizé. L'Aizé, parce que j'étais ce matin. Et l'Aizé, donc c'est le premier bubble tea de Paris. Je pense que vous devez connaître les bubble tea.
Ça me parle, mais ça avait l'air très bizarre.
Justement, l'Aizé, ce qui est génial, c'est que c'est dans la tradition taïwanaise qu'ils vont récupérer du thé de la région de Hainan. Donc c'est une région qui est connue pour faire un thé exceptionnel. Et en fait, c'est toujours ce que je conseille, si tu veux vraiment découvrir le vrai bon bubble tea taïwanais, c'est l'Aizé où il faut aller. Donc c'est L-A-I-Z-E.
Mais il y a quand même des espèces de bouboules dans le thé. Hein.
T'es pas obligé de les prendre, mais ouais, ça c'est traditionnel. C'est les perles de tapioca. C'est vraiment bizarre quand tu connais pas. Parce que genre en fait, t'aspires.
Mais c'est ça.
Ouais, et t'as un truc à manger.
C'est un peu bizarre quand tu bois du thé, tu t'attends pas à avoir de la substance. Mais toi, tu conseilles celle-là.
Ouais, en fait, si tu veux goûter, si tu veux découvrir le bubble tea, il faut vraiment aller là-bas. Parce qu'en fait, c'est devenu tellement hype qu'il a genre 1000 adresses qu'on ouvertes. Et franchement, il y en a, c'est de l'eau avec du sirop, quoi. Donc forcément, c'est décevant.
De toute façon, les bubble tea, c'est tout rien. Soit t'aimes, soit tu détestes.
Ouais, mais il faut tester. Tu peux pas venir à Paris et tester un bubble tea.
Et enfin, dernier resto, ton dernier resto ultime à Paris.
Alors là, vu qu'il fait 47 degrés à peu près, j'ai choisi Bachir. Donc Bachir,
c'est bon, ça.
Tu connais?
Ah ouais.
C'est quoi?
C'est des glaces libanaises qui cartonnent au Liban Et en fait, les petits-enfants du propriétaire au Liban s'est dit, on a envie de refaire ça à Paris, parce que c'est chiant de devoir aller au Liban pour manger une bonne glace. Donc c'est des glaces qui sont assez particulières, parce qu'il y a la hachta, qui est de la sève de pistache.
D'accord.
Et en fait, ça donne une texture un petit peu crémeuse, qui est hyper intéressante. Ça a la fleur d'oranger aussi. Enfin, c'est exceptionnel. Et c'est hyper gourmand. Il entoure de pistache, avec un peu de crème fouettée par-dessus.
Vraiment très, très bon.
Ah ouais?
C'est vraiment très sucré.
Mais ça a vraiment une impression de crème glacée ou pas du tout? C'est complètement différent.
Ouais, c'est super bon. C'est vraiment, c'est un délice. C'est à Châtelet, je crois, si je dis pas de bêtises.
Entre autres, à Châtelet et à Montmartre. Et en fait, le secret, c'est qu'avec la sève de pistachier, ça fond pas trop.
D'accord.
Et du coup, tu gardes une bonne texture. C'est pas comme la glace qui va fondre quand
qui fond en deux secondes et que t'es obligé de dire à ton enfant, lèche bien, parce que tu vas en avoir sur la robe.
C'est sur les doigts après. C'est horrible. C'est collant, c'est en enfer quoi.
Okay, moi je rajoute un dernier resto.
Vas-y.
Je rajoute un dernier resto, c'est Kodawari Ramen.
Ah oui.
Alors il y en a deux, il y en a un qui fait du poisson et un autre qui fait plus des trucs de viande. Ce sont des ramen, mais sauf qu'en fait à l'intérieur du restaurant, ils ont reproduit des ruelles de Tokyo. Genre, ouais. T'as un marché au poisson et une autre, c'est vraiment une petite ruelle de Tokyo très typique, c'est ultra ultra bon.
Et le gars qui a créé ça, qui s'appelle Jean-Baptiste de Mémoire, tu vois par exemple sur la rue, il est parti au Japon mouler une plaque d'égout pour avoir exactement la même apparition.
Oh, c'est incroyable.
Le niveau de détail est monstrueux.
Ouais.
Et le marché au poisson pour y être allé au Japon, c'est d'une ressemblance qui est folle.
C'est incroyable, en plus ils t'accueillent en criant des trucs vraiment comme dans les restaurants là-bas.
Ouais.
Je crois qu'ils ont même fait pousser eux-mêmes le blé pour faire les nouilles.
Ça c'est l'histoire qui est très très drôle. En fait le gars il trouvait pas des bonnes nouilles fraîches pour ses ramen. Donc il s'est dit je vais acheter une plantation de blé, comme ça je vais vraiment voir la qualité de la production pour pouvoir les faire à la main. Et d'ailleurs c'est marrant, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube d'un excellent chef de ramen japonais qui est venu à Paris. Donc un mec ultra exigeant, il a dit le meilleur c'est Kodawari.
Ouais. Non mais vraiment,
donc,
très très bon.
Écoute, on retient l'adresse.
Et on vous mettra toutes les adresses évidemment sur voltage.fr, sur le compte Instagram de Voltage. On va aussi parler du système d'abonnement que t'as mis en place. Juste avant, voici Kinvey avec le morceau Tu Mentais sans Voltage à Paris et partout en Ile-de-France. On file tout droit vers le week-end. Merci à vous d'avoir choisi la radio parisienne. The Weeknd sur Voltage, concert au Stade de France les 29 et 30 juillet prochains.
L'invité du 10-15.
Alors le concert est archi complet, mais ce qui est très très cool, c'est que Victor du Guide Ultime est notre invité. Il a réussi à boutiller 150 places gratos. Et ça c'est vraiment hyper sympa de sa part. Victor, je te remercie beaucoup d'être l'invité de Voltage, on est hyper content de te recevoir. C'est toi qui as créé le compte Instagram, le Guide Ultime, sur lequel tu partages tous les meilleurs restaurants de street food à Paris. Plein de bons plans aussi pour avoir des plats un peu moins chers à 50%. T'as lancé aussi un abonnement à l'année qui te permet en fait de pouvoir bénéficier de réductions tout au long de l'année dans plein de restos.
Exactement, ça s'appelle ledealultime.fr et en gros c'est un abonnement qui donne accès à moitié prix à une centaine de restos, d'activités, d'expériences, de bars, de bubble tea. Et c'est trop chouette. De base on a lancé ça pour faire quelque chose de solidaire, c'était 2€ l'abonnement. 4€ formule soutien et 2€ formule solidaire par mois. Et aujourd'hui on a plein d'offres différentes et l'idée effectivement c'est de permettre à plein de gens de se régaler et surtout de permettre aux restaurateurs d'avoir de la valeur. Tu vois, eux ils nous font des réductions mais nous en échange on leur fait une communication géniale pour qu'ils aient quand même beaucoup de nouveaux clients.
Mais c'est quoi qu'est-ce que t'appelles solidaire? C'est par rapport aux restaurateurs ou c'est pour une association?
Non, c'est pour les gens, c'est pour les jeunes en fait.
Oui,
pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, pour 2€ par mois, t'as accès à une centaine de restos à moitié prix, donc c'est forcément ultra rentable. Ça permet de bien manger, de découvrir des trucs cool et de faire vivre aussi des artisans qui le méritent quoi.
Il n'y a pas que des restos aussi, hein. il y a des concepts. Il y a un truc à Paris juste à côté de la Tour Eiffel, c'est des centres de flottaison. J'ai pu tester grâce au deal ultime le centre de flottaison. J'ai eu pour 50% la séance. Tu sais, c'est les bulles dans lesquelles tu flottes et t'es complètement privé de tes sens. Et c'est hyper relaxant.
Et ça ressemble à une espèce de cabine UV, mais en fait, c'est
exactement
de l'eau dedans, hein, c'est ça.
Exactement, okay. C'est un vrai délire. Hein.
Et t'as pas de lumière et t'es immergé dedans, c'est
ça. Ouais, t'es immergé en fait, t'as pas de lumière, t'as pas de bruit, ou alors je crois que tu peux avoir une petite
musique. T'es privé de tous tes sens, voilà. Entre guillemets, ouais, ça doit être un peu flippant, non?
Bah, c'est un peu, au début, c'est un peu déstabilisant, et puis après, tu te laisses aller, et c'est vraiment, mais alors vraiment relaxant. En fait, je suis resté, je crois, une demi-heure dedans. C'est passé en 5 minutes.
Ouais.
Parce qu'en fait tu lâches prise quoi.
Ouais, tu perds conscience de tout quoi, ok.
T'as aussi lancé, alors pour fêter les 800 000 abonnés sur Instagram, t'as lancé des cartes à jouer.
Ouais, ça c'est mon kiff un peu de jeunesse, un truc que je rêvais de faire. Et en fait c'est des cartes, donc c'est 25€, t'as 5 cartes, et en fait chaque carte donne accès à un resto gratuitement. Donc t'as plein de trucs, t'as des cartes rares qui donnent accès à des restaurants de luxe, t'as des cartes un peu moins chères qui donnent accès à des super trucs de street food. Et du coup en fait c'est des cartes, soit tu les consommes, donc tu les échanges au restaurateur, soit tu les échanges avec tes potes. Et du coup l'idée c'est vraiment de créer l'interaction comme ça avec les gens quoi.
Et où est-ce qu'on retrouve tout ça? C'est sur, sur ton site internet?
Ouais, tu mets le guide ultime sur Google, tu vas trouver sans problème.
Merci beaucoup Victor d'avoir été l'invité de Voltage aujourd'hui, on est hyper content de t'avoir reçu. Évidemment on va mettre le podcast sur voltage.fr, on va faire aussi un petit réel, et puis toutes les infos qu'on a données, vous les retrouverez aussi en ligne. Merci beaucoup Victor.
Avec grand plaisir.
À très très vite, voici Jane sur Voltage.
Vous avez appris des choses sur Voltage. Alors continuez de nous écouter, parce que ce n'est pas fini. Bonne écoute.
Voltage Dance Music, ça y est, elle est là avec nous dans les studios, elle vient d'arriver. Une invitée exceptionnelle aujourd'hui sur Voltage, elle a gagné deux fois l'Eurovision. Elle nous fait le plaisir de venir nous voir en France et ici dans les studios. C'est Laurine, bonjour Laurine, je suis comme un dingue de te recevoir.
Thank you, merci for having me, I'm
happy.
Oh,
bel accent français.
Right.
Tu étais en concert le 5 décembre dernier à Paris et j'ai cru comprendre que tu as toujours senti une connexion particulière avec les Français et avec la France. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier en France?
Well, I've thought about that. I'm not sure. Like, I don't know if it's because it's a romantic country and people allow themselves to, you know, enjoy music. Because when I had my show, I was looking out at the audience and, you know.
Alors c'est un mélange de plein de choses. Elle ne sait pas trop si c'est la nourriture, si c'est la culture. Après, elle s'est rendue compte, notamment lors de son concert, que les Français, ils ont tendance à se laisser vivre les choses, à se lâcher, à lâcher prise. En tout cas, c'était le cas pendant le concert. Pas tout le monde ne fait ça. Donc voilà, ils chantaient vraiment, ils se donnaient. Et elle dit que ça, c'est super et qu'encore une fois, c'est assez rare.
T'es de retour avec un nouveau morceau, Is It Love, et un album prévu en 2024. Est-ce que tu vas explorer de nouvelles choses? À quoi on peut s'attendre? Des surprises peut-être?
What you could expect is definitely energy, a lot of like energy. I like
de l'énergie en tout cas, obviously. Il y en aura beaucoup, ça c'est sûr.
Yeah, obviously I like dancing. I like to see people dancing. I like
elle adore danser, donc elle aime bien que les gens dansent, donc forcément le rythme c'est important.
But also I want to and I'm going to invite you all to my heritage, like a mysterious energy that I feel exists in all of us. We just have to trigger it. And certain music, especially, I wouldn't say North Africa, but just the whole.
Enfin, elle va vous inviter à un espèce de voyage un peu oriental, mystérieux, qui fait partie de son héritage à elle, sur la musique, la façon de danser, plein de sonorités. Ça va vraiment être le thème de ce que vous allez pouvoir entendre.
On espère que tu reviendras en France, nous faire des concerts, des dates peut-être prévues pour cette tournée.
In terms of coming back to France, most definitely coming back to France. It's already written in the stars, my darling. It's already happening. Like so, but in terms of touring and stuff like that, probably next year.
Ouais, tournée sûrement l'année prochaine.
Yeah, because it was amazing.
Parce que c'était incroyable.
This was my first. Yeah, but it was my first time in Paris, and you know, I didn't know what to expect.
C'était la première fois qu'elle jouait à Paris, donc elle savait pas trop à quoi s'attendre, et really c'était good. Vraiment assez exceptionnel. C'était cool.
Donc pas déçu. Cool. Ton morceau Euphoria, avec lequel tu as gagné l'Eurovision en 2012, n'a pas eu le succès espéré en France, contrairement à Tattoo qui a explosé, qui a cartonné. Comment tu expliques ça?
I just don't. I think everything has its time and everything happens just the way it's supposed to. And if I look back at that time, I would say I wasn't really ready for a huge explosion. I was ready for a small explosion, but not a huge one. Because, you know, during these 11 years from Euphoria to now, a lot of things has happened in my life that has strengthened me, you know. Basically, I would say being a bit spiritual, preparing.
En fait, déjà, elle pense que les choses arrivent pour une raison. Il y a aussi beaucoup une question de timing dans la vie. Elle pense qu'en 2012, quand effectivement Euphoria était sortie, elle n'était pas forcément prête à ce qui est arrivé, par exemple, avec Tattoo. Elle a dit que c'était une petite explosion et qu'elle n'était pas forcément prête à une grosse explosion. Et puis, il y a aussi tout son côté spirituel qu'elle a beaucoup développé ces 12 dernières années, qui l'a beaucoup aidé et préparé à vivre ce qu'elle est en train de vivre depuis Tattoo. Donc, quelque part, c'est pas plus mal et c'est arrivé pour une raison, en fait. Beaucoup le timing.
Ouais,
c'est assez intéressant d'ailleurs de voir la différence entre les deux titres, parce qu'elle dit qu'elle a toujours suivi son intuition. Elle l'avait fait pour Euphoria, mais là elle l'a fait encore plus sur Tattoo. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, alors que Euphoria c'est une chanson un peu plus vulnérable, un peu plus réservée. Donc elle dit que c'est assez intéressant de voir la différence avec le temps qui est passé entre les deux.
Ah oui, beaucoup d'amour, ça j'en doute pas du tout. En tout cas, nous on aime les deux morceaux. Laurine, j'ai vraiment l'impression que l'Eurovision c'est hyper important pour les Suédois. Comment tu expliques cet engouement?
I think it has to do with the fact that this is a forum that includes everybody, where everybody's voice is important. Like, it's not only a show where you enjoy and you watch, you can also be a part of it. And I feel
en fait, c'est un forum et une plateforme really qui inclut beaucoup, beaucoup de monde et plein de pays. C'est pas juste un pays ou une personne qui chante. Et tout le monde veut faire partie de ça et vivre ça. Donc elle pense que c'est pour ça que c'est même pas que alors, au niveau de l'Europe, c'est mondialement que ça se développe et que ça devient de plus en plus gros et de plus important parce que les gens ont envie de faire partie de quelque chose comme ça.
And also, I also think that creativity, like music, is very healing and very uniting. So it's like a common language that we have, that we understand, that we rejoice
about. En fait, la créativité musicale, comme elle dit, c'est quelque chose qui apaise et qui guérit, et puis surtout qui rassemble les gens. Donc vraiment, on en a besoin en ce moment, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe de fou dans le monde. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que tout le monde veut y participer et veut jouer de ça. Et c'est un peu comme... Ça aide l'esprit, en fait. C'est vraiment quelque chose de super apaisant, cette créativité musicale.
Après, c'est bien connu que nous, en France, on est absolument nuls à l'Eurovision, on est absolument des quiches, on n'a pas gagné depuis 1977. On a besoin d'aide, on a besoin qu'ils nous aident, Laurine. Est-ce que tu aurais trois conseils à nous donner? Nos artistes t'écoutent.
Yeah, because you know, I've thought about that, and I think, like, if you look at France, musically, I mean, France is the, you know, musically so hyped. Like, you guys have Daft Punk, you have Justice, you have Edith Piaf. Like, you have so many amazing artists, and all of them have a huge integrity.
C'est vrai que quand on regarde la France, il y a des artistes incroyables qu'elle vient de citer, que ce soit des plus anciens ou des plus récents, et ils ont tous une intégrité absolument hors norme, quoi.
That I don't know if the people vote here, like for the artists that they want to send. Maybe they do. If they do, great. First rule, let the people vote.
Oui, déjà que les gens puissent voter pour ceux qu'ils aiment et ceux qu'ils ont envie de voter. Ça, c'est déjà la première règle.
But the most important thing of all of it, like, is that the creator herself or himself needs to be completely authentic and free here and there.
Ouais, il faut vraiment que l'artiste qui représente la France, que ce soit un homme ou une femme, y croit vraiment, soit à fond dans l'énergie, dans la création, parce que c'est quelque chose qui va forcément résonner. Donc, s'ils ne sont pas à fond et qu'ils n'y croient pas, ça se sentira. Donc, il faut vraiment être à fond et vraiment faire partie du truc.
Moi, j'avais une question pour Slimane. Slimane, j'imagine que tu as entendu son morceau, le morceau qui va représenter la France. Est-ce que tu penses qu'on a toutes nos chances avec cette chanson pour le prochain Eurovision?
But my first, like, initial feeling when I saw him is like, oh, this is really a powerful person, but in a like humble way, like he has a real energy, it was glowing through his eyes. I'm like, oh, this is real. And then I listened to the song, I'm like, oh, this is a real song as well. So what I'm hoping for, Slimane, is like, I, you know,
encore une fois, c'est une vision, en fait. C'est la chanson, visuellement, ce qu'on va donner avec la chanson. Et elle espère que Slimane, en tout cas, elle a écouté la chanson. Déjà, quand elle l'a vue la première fois, elle a trouvé qu'il était quelqu'un de très puissant, qui dégageait vraiment quelque chose, une sorte d'énergie. Et elle espère que justement, il saura représenter cette vision et vraiment se donner à fond pour que ce soit un tout et que ça le fasse pour l'Eurovision.
Tu as déjà gagné deux fois l'Eurovision. En France, on a une expression, on dit jamais deux sans trois. Est-ce que peut-être une troisième participation à l'Eurovision un jour?
Oh God, in 11 years.
Dans 11 ans.
Well, I don't know.
Ouais, elle sait pas, on sait pas.
Yeah, because you don't know. You could say, yeah, you never know. You can say, no, it's never going to happen. And then a year from now, I'll do it again.
You never know, on sait jamais.
This time when I did it, I felt like it was meant for me to do it for some reason. I don't know if it was the narrative or the energy or the space. I don't know, but it was so obvious that life was pointing in a direction, because my initial reaction was no, I'm not gonna do it, there's no reason why. But then
en fait, elle dit que sa réaction initiale pour le faire la deuxième fois, c'était non, carrément pas. Et en fait, elle dit que tout était écrit, on dirait, tout pointait dans la direction de « il faut que je le fasse ». Les gens, la musique, on sortait du Covid, les gens étaient là, on a besoin de quelque chose, de se remonter. Donc elle a dit, en fait, c'était comme si c'était écrit que je devais le faire et tout pointait dans la direction de « je dois refaire l'Eurovision ». Donc, on ne sait jamais.
Évidemment, ne jamais dire jamais. Merci beaucoup, Laurine, d'être passée nous voir. C'était vraiment un pur kiff de te recevoir ici dans les studios de Voltage. Le nouvel album qui sort en début d'année 2024, on n'a pas encore de date. On te souhaite tout le meilleur en tout cas.
Thank you. Merci beaucoup.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là. Mmh.
que je fasse le pas. On a joué tellement de fois, on y gagne quoi. Aucun ne se lance comme si la peur avait oublié d'avance. Que sinon ignore, that it's not too late for these temptations. Too late for me to find a reason to stop you. Gazing into my eyes watching you. It's too late for me to read now. It's too late for me to cool you down. Un coup tu m'adores, un coup on s'accorde à faire les sourds. On se ment tour à tour, à quoi on joue. Je veux plus faire d'efforts, l'amour au mieux empire les remords. Cause you don't ignore that it's not too late for these temptations. Trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier. Trop tard pour moi de renoncer. Ces tentations, c'est trop tard pour nous trouver les raisons d'apaiser.